これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
ヘッベンガ。
Le Gué Savoie.
Une émission de Raphaël Antoven avec Paola Reymann.
À la réalisation, François Connac.
Et à la technique, Delphine Baudet. Combien de vieillards donnent de bons conseils pour n'être plus en âge de donner de mauvais exemples ? Croyez-en, disent-ils, ma vieille expérience. Tu parles, comme s'il suffisait d'être vieux pour être sage. Expérience, c'est le nom qu'on donne au rejet des passions qu'on regrette, ou au regret des passions qu'on rejette. Montaigne est en cela beaucoup plus sage que les sagesses officielles, puisque le dernier chapitre des essais de l'expérience ne fait pas tant l'éloge d'une sagesse acquise, mais bien l'éloge de la sensation, de l'enfance, de l'insouciance. Toute cette fricassée, dit-il, que je barbouille ici n'est qu'un registre des expériences de ma vie qui peut servir d'exemple pour la santé de l'âme si l'on prend le contre-pied du modèle qui y est peint.
Bonjour Raphaël.
Bonjour Paola.
Il n'est de désir plus naturel que le désir de la connaissance. Alors c'est la toute première phrase du chapitre sur l'expérience, qui est le dernier chapitre des essais que nous étudions aujourd'hui. Et quand on la lit comme ça, sans lire le reste, ça pourrait être une phrase de Sénèque, par exemple.
Ça pourrait être une phrase de Sénèque, ça pourrait être aussi une phrase d'Épicure. Et il y a une ambivalence de ce point de vue chez Montaigne, parce que Montaigne a été d'abord stoïcien. Le chapitre qu'on a déjà eu le plaisir d'étudier ensemble sur la mort, que philosopher c'est apprendre à mourir, est un chapitre d'inspiration stoïcienne. Ne s'y réduit pas, mais il est d'inspiration stoïcienne. Ici, dans le chapitre sur l'expérience que Montaigne écrit à 56 ans, il le dit lui-même un peu plus loin dans le même chapitre, ce chapitre très long qui clôt les essais, Montaigne est davantage épicurien. Mais dans l'un et l'autre cas, qu'il soit stoïcien, qu'il soit épicurien, le commandement est le même, il est de suivre la nature. De suivre l'inspiration de la nature. Alors, il faut préciser quand même que dans cet ultime chapitre, d'abord, il faut préciser que cette phrase « Il n'est désir plus naturel que le désir de la connaissance », très belle phrase, est en même temps une phrase qui semble très simple, évidente, c'est presque une porte ouverte, c'est tout à fait naturel de vouloir apprendre. Mais l'emploi de l'adjectif naturel est, je crois, intéressant quand on le réfère aux autres occurrences de l'expression « nature » dans ce chapitre-là. Vous avez, par exemple, un petit peu plus loin, Montaigne parlant de la nature. Il dit d'ailleurs « le visage de nature avec un grand N » ou « une grande N », comme disent les cuistres. Et que dit-il de la nature un peu plus loin ? De même qu'elle nous a pourvus de pieds pour marcher, elle nous a pourvus aussi de sagesse pour nous guider dans la vie, sagesse qui n'est pas aussi ingénieuse, robuste et pompeuse que celle de l'invention des philosophes, mais comme il convient, facile et salutaire, et qui fait très bien ce que celle des philosophes dit chez celui qui a le bonheur de savoir s'employer naïvement et d'une façon réglée, c'est-à-dire naturellement. Et l'on a ici les deux préceptes d'une obéissance aux injonctions tacites de la nature, enfin les deux façons de s'y soumettre, la naïveté, la candeur, disons, et une façon réglée, un comportement réglé. Et ces deux déterminations sont tout à fait cruciales chez Montaigne. Un peu plus loin, toujours dans ce chapitre, il dit « Je dois plusieurs semblables mollesses à l'habitude d'en user ». La nature m'a aussi d'autre part apporté les siennes, comme par exemple de ne pas supporter plus de deux repas complets en un jour sans surcharger mon estomac, et de ne pas être capable de m'abstenir complètement d'un des deux repas sans me remplir de vent, sans assécher ma bouche, troubler profondément mon appétit. En d'autres termes, la nature est aussi le synonyme du corps chez Montaigne. Or, chez Montaigne, et c'est ce chapitre-là qui le dit, le chapitre sur l'expérience, chez Montaigne, le corps ne s'égare jamais. De sorte que Montaigne répond à Descartes avant que Descartes lui-même... Il y répond par anticipation en montrant que, contrairement à ce que dit Descartes, si j'ose dire, Descartes n'existe pas encore, mais contrairement à ce que dit Descartes, ça n'est pas la sensation qui est fausse, c'est le jugement. Une sensation, prétend Montaigne, telle que je l'éprouve, elle n'est ni vraie ni fausse, ou plus exactement, elle est vraie dans la mesure où elle ne se réfère qu'à elle-même. Si vous éprouvez que vous avez froid, il peut peut-être faire chaud dehors, vous êtes peut-être particulièrement frileuse ou malade ce jour-là, vous sentez que vous avez froid. Rapportée à la réalité des faits, votre sensation peut être dite fausse. Mais rapportée à la réalité de votre expérience, Il n'y a pas de fausseté dans le fait de dire « j'ai froid ».
Et il y a, me semble-t-il, dans les essais, une mention qui est faite à la sensation vraie.
Tout à fait. C'est dans ce chapitre. C'est dans ce chapitre. Alors, je ne sais plus exactement où ça se trouve, mais effectivement, c'est dans ce chapitre que Montaigne examine l'oxymore apparent de sensation vraie. D'un point de vue platonico-cartésien, c'est une contradiction dans les termes, une sensation vraie. Une sensation est toujours fausse parce qu'elle est partielle, partiale, mutilée, incomplète. Et puis parce que ce qu'elle nous apprend ne correspond pas à ce qui est. Mais en réalité, nous ne versons dans la fausseté aux yeux de Montaigne qu'à la seconde où le jugement s'empare de la sensation, c'est-à-dire où nous légiférons à partir de ce que nous éprouvons. En termes politiques, ça donne la personne de celui qui, prenant son propre malheur ou son propre désarroi pour une norme, pour une vérité, prenant son cas pour une généralité par exemple, en vient à voter pour le parti politique qui lui semble incarner le mieux son désarroi, reprendre le mieux le cri qui est le sien. Et par là même, il peut avoir le sentiment de voter pour la vérité. Il ne vote ici que pour sa propre sensation. Ce que je veux dire, c'est que l'erreur chez Montaigne ne tient pas dans la sensation. Elle relève du jugement qui vient se juxtaposer à la sensation, interpréter la sensation. Donc l'erreur, elle est dans le jugement, elle n'est pas dans la sensation. Et Montaigne, de ce point de vue, ce premier philosophe des Lumières, l'un des premiers, peut-être après Platon, philosophe des Lumières, Montaigne met en place une sorte de pessimisme anthropologique, c'est-à-dire un doute quant à la capacité par le jugement, notre capacité judicative, à dire le vrai. Nous pouvons sentir vraiment. Mais dire le vrai, c'est une autre aventure. Et l'ambition de pouvoir dire le vrai au-delà de ce que nos sensations nous donnent est une ambition propre au XVIIe siècle, puis au XVIIIe siècle. Mais à l'époque de Montaigne ou de Rabelais, on est d'abord dans cette humilité fondamentale qui consiste à sanctifier la sensation tout en la refermant sur elle-même, en un sens. En tout cas, en faire la source du savoir. Et là encore, on est dans les injonctions de la nature. Encore une fois, dans le texte sur l'expérience, Montaigne dit un peu plus loin « J'estime que c'est une égale injustice de prendre à contre-cœur les plaisirs naturels et de les prendre trop à cœur ». C'est une phrase dont Guitry s'est inspiré quand il remarquera que les hommes qui n'aiment pas les femmes sont de deux catégories. Première catégorie, ceux qui n'en changent jamais. Deuxième catégorie, ceux qui en changent tout le temps. Dans les deux cas, il y a une sorte de dégoût des femmes. Et Montaigne dit la même chose. C'est-à-dire ceux qui ne suivent pas la nature, en l'occurrence, ce sont ceux qui soit sacrifient toute leur existence au plaisir qu'elle dicte ou qu'elle suggère, soit au contraire se prive de la totalité de ses joies. La nature chez Montaigne est presque maternelle. Et c'est là que je veux dire, d'ailleurs il dit un peu plus loin, la nature a maternellement observé ce principe. L'emploi de l'adverbe n'est pas innocent. La nature est presque maternelle, de sorte qu'on peut presque chez Montaigne, je crois, considérer que la nature... Vous savez, Spinoza dit « Deus sive natura » dans l'Éthique, proposition 29 du livre 1, « Deus sive natura », Dieu, c'est-à-dire la nature. Et j'ai longtemps enseigné ce passage, discuté de ce passage avec des étudiants, en leur expliquant que cette équation était réversible ou commutative. Dieu, c'est-à-dire la nature, c'est-à-dire Dieu. Et en fait, ça n'est pas du tout le cas. Je voudrais m'en excuser auprès des étudiants qui peut-être s'en souviennent. Je crois que c'est une erreur. L'équation n'est pas réversible. Ce n'est pas la même chose de dire de la nature qu'elle est Dieu ou de dire de Dieu qu'il est la nature. Spinoza dit de Dieu qu'il est la nature et ce faisant, il le fait descendre sur terre. Montaigne a une conception théiste de la nature elle-même. On a vraiment l'impression qu'il lui prête quasiment une intention. Il y a presque une téléologie naturelle chez Montaigne, tant il faut suivre les leçons implicites de la nature. À la toute fin du chapitre, il dit « J'accepte de bon cœur et d'un cœur reconnaissant ce que... » Alors, dans le texte original, c'est « ce que nature a fait pour moi ». Et dans la traduction d'André Lanly, sur laquelle nous travaillons, Montaigne en français moderne, dont on ne dira jamais assez de bien, Lanly met entre parenthèses l'article défini. Donc il dit ce que la nature. Mais il a raison de le mettre entre parenthèses, parce que c'est important, cette nomination de la nature, cette érection de la nature en lettres capitales. Il y a, chez Montaigne, je crois, une sacralisation presque de la nature, ce qui permet de poser, je crois, un autre œil sur cette première phrase, en apparence anodine, en réalité plus que profonde, puisqu'elle renseigne sur l'ambition de Montaigne, et sur l'humilité de cette ambition, puisque c'est l'ambition d'un homme qui ne se vit pas comme l'origine de ses pensées, mais comme, essentiellement, l'interprète de la nature. Alors, va-t-il jusqu'à donner une intention à la nature? C'est une question qui reste ouverte.
Alors, pour revenir quelques instants sur ce que vous disiez de la soumission à la nature, de l'obédience à la nature, en termes politiques, parce qu'à un moment, il y a une métaphore politique par rapport à ça, au début du chapitre, ça donne « La bonté et la capacité du gouvernement doivent nous décharger pleinement et sans réserve du souci de son gouvernement ». Et je voulais dire qu'en termes politiques, ça donne quelque chose d'assez conservateur. C'est la soumission du peuple à l'État, au gouvernement, à partir du moment où on juge qu'il nous gouverne bien.
Alors, effectivement, il y a de cela. On retrouve d'ailleurs, je vais dire, un écho de ça. Vraiment, c'est parce que l'histoire des idées n'est pas linéaire qu'on peut le dire. Dans le taoïsme, dans un éloge du non-agir, que certains tyrans, d'ailleurs, de l'ancienne Chine, et je renvoie ici nos auditeurs à l'histoire de la pensée chinoise de Han Cheng, qui m'a appris cela, et c'est limpide quand elle l'explique. Certains tyrans se sont servis du taoïsme justement pour amollir le peuple, ou en tout cas pour le tourner vers une non-action qui lui permet d'exercer en tout arbitraire et en toute illégitimité d'ailleurs le pouvoir qui est le sien au nom de sa propre puissance justement. Pour l'heure, pour en rester dans la perspective de Montaigne, vous avez raison Paola, Montaigne est conservateur. Il est conservateur et c'est un paradoxe où l'on trouve, je crois, les linéaments de la pensée politique qui viendra plus tard
de Pascal.
Oui, de Pascal. Dans les pensées, vous savez, il y a ce chapitre dont on a déjà parlé et auquel je renvoie nos auditeurs, qui s'appelle « Justice et raison des effets ». Et en substance, il dit entre autres, et c'est le morceau qu'on en retient en général, que ce n'est pas parce que la loi est juste qu'elle est forte, c'est parce qu'elle est forte qu'elle est juste. Il le dit à peu près comme ça. Hein. Or, Montaigne comme Pascal ont en partage de pointer la contingence de ces lois prétendument absolues. La valeur à la fois arbitraire et contingente de ces lois. Tout comme d'ailleurs la contingence, chez Pascal c'est encore plus fort que chez Montaigne, la contingence de la titraille. Vous êtes duc par hasard, donc ne vous prenez pas pour un duc, vous qui êtes duc. De même, vous êtes roi par hasard, vous n'êtes pas roi de droit divin, vous êtes roi par hasard. Donc ne vous prenez pas pour un roi. Mais ne dites pas à votre peuple que vous êtes roi par hasard parce qu'il le sait déjà. Ne dites pas aux gens ce qu'ils savent déjà, ils ne le supporteront pas. Et c'est ça qui est fort, c'est qu'il combine le constat de la facticité, de la contingence, de l'artificialité de ces titres ou de ces lois avec la nécessité de leur obéir. Comme si Montaigne et Pascal allaient chercher à l'intérieur même de la contingence, c'est-à-dire dans l'illégitimité législative, un argument en faveur de la soumission qu'on leur doit. Ce qui est tout à fait paradoxal. Ils fourbissent les armes de ceux qui contestent la légitimité du pouvoir tout en prêchant en faveur des plus conservateurs, c'est-à-dire de ceux qui ne voudraient absolument pas changer quoi que ce soit à l'exercice du pouvoir. Montaigne dit, et vraiment Pascal n'a fait que le recopier, « Disons maintenant que les lois se maintiennent en crédit, non parce qu'elles sont justes, mais parce qu'elles sont des lois, c'est le fondement mystique de leur autorité. » Montaigne avait dit un peu plus tôt « Mieux vaut une injustice qu'un désordre ». Phrase qu'on retrouve chez Pascal. Ce n'est pas parce que les lois sont justes qu'elles sont fortes, c'est parce qu'elles sont fortes qu'elles sont justes, et mieux vaut une injustice qu'un désordre. Puisque la dot de la justice, c'est le chaos, restons dans l'injustice, quand bien même les lois ou le fondement ou l'établissement des lois seraient injustes. Il y a vraiment quelque chose de très paradoxal dans ce primat de l'expérience, cet amour de la vie que décrit Montaigne à la fin de son chapitre. C'est un chapitre adorable, un chapitre sur l'expérience. Vraiment, vous pouvez lire ça, amis auditeurs, faites-vous plaisir, promenez-vous dans ce texte, c'est un chapitre adorable, adorable. Mais il combine cet éloge de l'expérience, cet amour de la vie sous toutes ses formes, toutes ses sensations, tous ses plaisirs, et même, ça va même jusqu'à l'éloge des maladies, notamment la sienne, la gravelle, il combine ça avec un conservatisme presque étouffant. Et ça, c'est une des dimensions en apparence paradoxales. Peut-être que si on creuse un petit peu le thème de l'expérience, on découvre les linéaments de son conservatisme.
Restons-en un petit peu sur les lois, puisque vous avez pointé la critique des lois et en même temps le fait qu'il faille leur obéir. Mais déjà, c'est un peu particulier de la part d'un magistrat. Et c'est dès les premières pages du chapitre sur l'expérience, il commence à dire qu'il y a beaucoup trop de lois en France, mais qu'il n'y en aura jamais assez pour s'adapter à l'expérience, qu'il y a trop de lois, mais que, enfin, il est en faveur d'une casuistique absolue, un petit peu.
Ben oui, mais pourquoi y a-t-il trop de lois? Parce que le rêve de cette omni-législation, c'est de déposer une loi sur tous les cas particuliers. En fait, ce que Montaigne dit, mais je crois sans le savoir déjà, encore qu'il est juriste, peut-être a-t-il déjà une intuition de la jurisprudence, il faudrait faire une histoire du droit ici. Mais ce que Montaigne dit, me semble-t-il, sans le savoir, c'est que la réalité n'est pas si petite, si étroite, qu'on puisse, avec un appareil législatif, c'est-à-dire humain et artificiel, en recouvrir la totalité des cas. Au contraire, plus on étend le spectre de la loi, plus la loi, c'est un peu comme la connaissance, plus on apprend de choses, plus on découvre ce qu'on ignore, plus on étend le spectre de la loi, plus on s'aperçoit que la loi ne peut pas tout recouvrir. Et qu'il faut donc, en gros, on ne peut pas avoir une conception déterminante de la loi comme on a une conception déterminante des sciences. Et je parle ici comme, j'emploie le lexique kantien pour le dire. On ne peut pas déduire un cas particulier d'un concept plus général en termes juridiques, parce que le droit n'est pas une science exacte, et que la réalité n'est pas si petite qu'elle puisse être intégralement recouverte par un arsenal légal ou législatif. Il y a quelque chose qui échappe à cela. Et Montaigne, dans le même chapitre où il fait l'éloge du conservatisme, déconstruit l'idéal totalitaire et absurde d'une loi adaptée à chaque cas, à la façon des cartographes de Borges, qui commencent par concevoir des... J'avais pris, d'ailleurs, pour les besoins de cette émission, j'avais relevé la phrase de Borges, je la cherche en vous parlant. Voilà, écoutez ça.
En cet empire, l'art de la cartographie fut poussé à une telle perfection que la carte d'une seule province occupait toute une ville, et la carte de l'empire, toute une province. Avec le temps... ces cartes démesurées cessèrent de donner satisfaction. Et les collèges de cartographes levèrent une carte de l'Empire qui avait le format de l'Empire et qui coïncidait avec lui point par point. Moins passionnés pour l'étude de la cartographie, les générations suivantes réfléchirent que cette carte dilatée était inutile et, non sans impiété, elles l'abandonnèrent à l'inclémence du soleil et des hivers. Dans les déserts de l'Ouest subsistent des ruines très abîmées de la carte. Des animaux et des mendiants les habitent.
Que dit-il là ? Il dit le rêve, justement. Par l'artifice de rejoindre la totalité de la nature, l'infinie totalité de la nature et l'impuissance, la vacuité d'un tel rêve, Montaigne ne dit pas autre chose quand il explique, quand il se demande qu'ont gagné nos législateurs à distinguer 100 000 espèces et faits particuliers et à y attacher 100 000 lois. Ce nombre n'a aucune proportion avec l'infinie diversité des actions humaines. La multiplication de nos créations n'arrivera pas au niveau de la variété des exemples. Que voulez-vous ? La pensée ne recouvre pas la vie, la loi ne recouvre pas tous les cas de figure. Il faut de la jurisprudence de la même façon qu'une carte, pour être exacte, devrait avoir les dimensions du pays qu'elle cartographie.
Et c'est pour ça qu'il en conclut, les lois les plus désirables sont celles qui sont les plus simples et les plus générales.
Vous avez dans le chapitre, donc sur l'expérience, des propos qui, sur la question du commentaire, de l'herméneutique, pas seulement de l'interprétation de la loi, hein, pas seulement de la jurisprudence, mais du commentaire de texte, des positions qui semblent un tout petit peu contradictoires. Regardez ça, c'est votre question qui m'y conduit. Qui ne dirait pas que les commentaires augmentent les incertitudes et l'ignorance, puisqu'on ne voit aucun livre, soit humain, soit divin, auquel les hommes accordent leur attention, dont l'interprétation fasse tarir la difficulté ? Le 100e commentaire renvoie à son suivant le livre le plus épineux et hérissé de difficultés que le premier ne l'avait trouvé. Quand a-t-on convenu ceci entre nous ? Ce livre a assez de commentaires, il n'y a désormais plus rien à dire. En d'autres termes, et il continue un peu plus loin, nous obscurcissons et ensevelissons l'intelligence. Nous ne parvenons plus à la connaître que lorsque tant de clôtures et de barrières veulent bien le permettre. Et on peut avoir le sentiment ici, comme le dit Montaigne, hein, que c'est la science qui crée la difficulté, que c'est l'artifice qui échoue au bord du réel, pour le saisir, qui échoue à saisir la réalité, que c'est la science qui crée la difficulté et que c'est le commentaire qui obscurcit un texte. Alors, en quel sens peut-on l'entendre ? On peut l'entendre en un sens extrêmement antipathique, c'est-à-dire au sens de l'apologie d'une lecture littérale des textes. Or, le littéralisme est une calamité. C'est une calamité aujourd'hui universelle, c'est-à-dire c'est une calamité. C'est le littéralisme coupe des têtes aujourd'hui. L'État islamique indûment d'ailleurs appelé État islamique, revendique par définition une approche littérale des textes, c'est-à-dire la décollation des mécréants, par exemple. Une interprétation littérale est un péché mortel, est une insulte au texte. Il n'y a pas moins pieux que celui qui prend les textes sacrés au pied de la lettre. Et pourtant, on peut avoir le sentiment ici que Montaigne fait l'éloge d'une lecture littérale aux dépens du commentaire qui viendrait recouvrir le texte et le noyer sous une abondance de dissertations. Dans le même temps, et c'est évidemment ce deuxième sens qu'il faut l'entendre chez Montaigne, la critique montagnienne du commentaire est une critique non pas de toutes ces nappes de sens ou d'interprétation qui viennent se déposer sur un texte. C'est une critique de l'annexion par le commentaire d'un texte. C'est-à-dire que non seulement on obscurcit un texte quand on le commente, mais en plus on lui fait dire n'importe quoi quand on le commente de travers. Vous avez comme ça dans l'histoire des idées, des lectures totalement délirantes. Par exemple, vous avez des philosophes contemporains qui ont pignon sur rue, qui considèrent que Nietzsche expliquant qu'il philosophe à coups de marteau, ben ça veut dire qu'il veut tout casser, par exemple. Ce qui est un contresens majeur sur la pensée de Nietzsche. Le marteau de Nietzsche, ce n'est pas le marteau de qui détruit les idoles. Ça ne l'est qu'anecdotiquement. Le marteau de Nietzsche, c'est le marteau du pianiste, c'est le marteau du médecin, c'est le marteau qui prend le pouls de l'époque ou bien le pouls de votre corps. Mais ça n'est certainement pas uniquement, en tout cas, et ça l'est très peu en vérité, le marteau de l'iconoclaste qui veut détruire les idoles ou les icônes. Ce que je veux dire ici, c'est qu'il y a des interprétations qui affadissent, appauvrissent les textes. Et contre cette façon de faire, c'est-à-dire contre cette annexion du texte par la conviction, contre cette réduction du texte par la certitude, Montaigne oppose la figure d'une lecture humble des textes. Et effectivement, Montaigne lui-même lit Sénèque, lit Plutarque, Montaigne lit Platon. C'est-à-dire que Montaigne truffe son texte de textes eux-mêmes originaux. Originaux, c'est-à-dire que s'il se commente lui-même, il se commente en s'appuyant sur des pensées qui le précèdent et des pensées dans le sillage desquelles il se situe. Donc vous voyez, chez Montaigne, il y a une critique du commentaire au sens où le commentaire est une annexion, et un éloge, en revanche, de la lecture nue d'un texte, mais qui n'est certainement pas une lecture littérale, qui est au contraire une lecture attentive à toutes les autoroutes ou tous les chemins de traverse qu'un tel texte inaugure. La candeur est là. Vous voyez, c'est subtil. Critique du commentaire, qui est en même temps un éloge de l'herméneutique. C'est une critique de la réduction du texte au discours qui viendrait se déposer sur lui. Et c'est un éloge, en même temps, de toutes les pistes ouvertes par une lecture enfin candide d'un texte dépouillé de ceux qui croient le connaître et l'enseigner.
On trouve dans la littérature, j'y pensais pendant que vous parliez, par exemple dans Shakespeare, dans Le Marchand de Venise, on trouve...
Pourquoi vous avez cité Le Marchand ? Allez-y, pardon.
On trouve un bel exemple dans Le Marchand de Venise d'une interprétation qui peut sauver la vie, en fait.
Ah oui, bien sûr.
Un commentaire de la loi qui peut sauver une vie.
Il faut rappeler le contexte à ceux de nos auditeurs qui n'ont pas lu Le Marchand de Venise la semaine dernière.
Alors, ça va être difficile comme ça en
substance. La moitié d'entre eux.
Mais... Je pense à un moment particulier du Marchand de Venise, c'est le moment du procès un petit peu. Donc les personnages qui, en présence, il y a le marchand juif Shylock qui a prêté de l'argent à Antonio. Antonio qui n'est pas en mesure de le rembourser. Et dans la clause du prêt, la clause spécifie que si Antonio ne peut pas rembourser Shylock, il lui devra une livre de chair. Et évidemment, Antonio ne peut pas rembourser puisque ses navires sont en mer, etc. Et ils font venir un docteur en loi, donc, qui est en réalité, mais peu importe, qui est Portia, la femme de Bassanio, déguisée en homme, Balthazar, et qui, en commentant la clause, s'aperçoit qu'une livre de chair ne veut surtout pas dire de sang qui coule. Et j'arrive pas à finir parce que j'ai
mais
le texte.
C'est pas la peine, je peux finir à votre place, puisque s'appuyant sur cette clause, Portia fait valoir le fait que si Shylock, monsieur serrure timide... Shylock. Ah oui. Si Shylock reçoit une livre de chair, il ne peut pas recevoir un gramme de plus. Sinon, c'est sa propre vie qu'on lui prendra. De sorte que Shylock, qui semblait ne demander que l'application de la loi, en vérité, voulait se venger. Il voulait se venger parce que, comme il est juif, il se sentait haï, détesté par le seigneur qui lui a emprunté de l'argent. Et donc, il y a, c'est une lecture nietzschéenne de la pièce pour le coup, qui n'est pas si antisémite que peut-être anti-judaïque ou anti-judaïsme. Shylock, exigeant d'être remboursé exactement à la hauteur du prêt qu'il a consenti, prétend le faire au nom de la loi et en réalité le fait par colère, par jalousie, par ressentiment, par détestation. Et Portia le prend à son propre jeu en précisant que la loi elle-même ne lui est pas si avantageuse, ce qui fait qu'ultimement Shylock renonce à sa requête. Et effectivement, cet exemple montre bien que la loi n'épuise pas la totalité des cas, que la loi n'est pas une science exacte, et que celui qui prétend s'appuyer sur elle, en réalité, ne le fait que dans la mesure où cela sert ce qui, chez Shylock, relève d'abord du ressentiment, et qu'on peut toujours le prendre à son propre jeu, c'est-à-dire qu'on peut être plus juridique, à juridique, juridique et demi. Et c'est ce qui se passe dans le Marchand de Venise, effectivement, ce qui va dans le sens de l'argumentation de Montaigne. Si le Marchand de Venise, voilà, pour le dire en termes montagnens, ou pour être dans le sillage de Montaigne, si le Marchand de Venise est une pièce antisémite, donc si on lit le Marchand de Venise comme une pièce antisémite, c'est le modèle de ces interprétations réductrices qui recouvrent le sens d'un texte contre lesquels, je crois, Montaigne s'insurge. Parce que ce serait faire peu de cas, notamment de ce monologue fameux dans lequel les Juifs, un Juif, en l'occurrence Shylock, revendique ses droits à l'humanité en expliquant qu'il éprouve les mêmes passions que les autres. Vous savez, c'est ce fameux monologue, si vous nous piquez, est-ce que nous ne sommes pas blessés? Si vous nous heurtez, est-ce qu'on n'a pas mal? Enfin, si vous nous empoisonnez, est-ce que nous ne mourrons pas? C'est ce passage merveilleux du Marchand de Venise, sur lequel une lecture plus généreuse doit s'attarder. Une lecture plus généreuse que la simple lecture qui se contente de ce qu'elle croit doit s'attarder. Écoutez.
I am a Jew! Hath not a Jew eyes? Hath not a Jew hands? Organs? Dimensions? Senses? Affections? Passions? Fed with the same food? Hurt with the same weapons? Subject to the same diseases, healed by the same means, warmed and cooled by the same winter and summer as a Christian is. If you prick us, do we not bleed? If you tickle us, do we not laugh? If you poison us, do we not die? And if you wrong us, shall we not revenge? If we are like you in the rest, we will resemble you in that. If a Jew wrong a Christian, what is his humility? Revenge? If a Christian wrong a Jew, what should his sufferings be? By Christian example. Why revenge? The villainy you teach me, I will execute, and it shall go hard, but I will bet the instruction.
Pourquoi notre langage courant, si aisé pour tout autre usage, devient-il obscur et inintelligible dans un contrat et un testament? Et pourquoi celui qui s'exprime si clairement, quoi qu'il dise et écrive, ne trouve-t-il en cela aucune manière de manifester sa pensée qui ne tombe dans le doute et la contradiction? Pourquoi, si ce n'est parce que les princes de cet art, s'appliquant avec une attention particulière à choisir des mots solennels et à constituer des formules artificielles, ont tellement pesé chaque syllabe, épluché chaque espèce de couture verbale, que les voilà empêtrés et embrouillés dans l'infinité des formes de langage et dans des divisions du discours si menues qu'elles ne peuvent plus tomber sous aucune règle et prescription ni être comprises avec certitude. Confusum est quid quid usque in pulverem sectum est. Tout ce qui est divisé jusqu'à devenir poussière est confus. Qui a vu des enfants essayant de diviser une masse de mercure en un nombre déterminé de parties? Plus ils le prennent et le pétrissent, et ils s'appliquent à le soumettre à leur loi, plus ils excitent la liberté de ce noble métal. Il échappe à leur manipulation et ne cesse de se diviser et de s'éparpiller en sections de plus en plus menues au-delà de tout compte. Il en est de même ici. car en subdivisant ces subtilités, on apprend aux hommes à accroître les doutes. On nous entraîne à étendre et à diversifier les difficultés, on les allonge, on les disperse. En semant les questions et en les retaillant, on fait fructifier et foisonner le monde en incertitudes et en querelles, comme la terre devient d'autant plus fertile qu'elle est plus émiettée et plus profondément remuée. Difficultatem facit doctrina. C'est la science qui crée la difficulté.
Alors, comment...
Qu'en dites-vous ?
Justement, j'ai une question, parce qu'en le lisant, là, du coup, pour les...
Moi aussi, j'ai une question. Pourquoi vous aimez ce passage ?
Oui, parce qu'en fait, ça commence comme une simple... Comme une critique du charabia administratif, la confusion, etc.
Il est assez étonnant de découvrir à la fin du XVIe siècle, hein, ce qui
oui.
est tout à fait étonnant.
Oui, qui est étonnant et qui, par contre, n'est pas étonnant de la part d'un homme qui s'exprime si clairement et qui a un tel amour de la langue. Et ça se termine sur quelque chose de beaucoup plus, je trouve, beaucoup plus fin encore, sur cette, à partir du parallèle avec ce noble métal qu'est le mercure qui se divise, qui s'émiette, etc., et de la science qui crée la difficulté, on ne sait plus si on est encore dans la critique ou si on est dans quelque chose d'autre.
C'est un texte magique hein, que vous venez de lire. C'est un texte magique parce qu'il part de quelque chose d'apparemment anodin, même si c'est très bien vu. Le langage administratif, bordélique, mortel, etc. Je veux dire, Sartre n'a rien inventé dans la critique de la raison dialectique en 1964. Là, on est en 1580, si vous voulez. Et tout s'y trouve déjà, tout y est déjà. Ce qui est magique là-dedans, c'est qu'il part d'une critique du langage administratif, du sabir administratif, imbitable, incompréhensible, insupportable, pour en venir à l'idée que c'est la science qui crée la difficulté et en venir au sentiment que la divisibilité à l'infini de la matière nous éloigne de ce qui en fait la souveraine simplicité à laquelle nous devons être rendus par un exercice de candeur renouvelée
et reconquise. Et en même temps, que penser de cette phrase quand il dit « En semant les questions et en les retaillant, on fait fructifier et foisonner le monde
oui. ».
Bon, en incertitude et en querelle.
En incertitude et en querelle. Ne faites pas votre journaliste qui sort les phrases de leur contexte.
Si on s'arrêtait à foisonner le monde, on serait dans quelque chose de presque, je ne sais pas, dans de la phénoménologie un petit peu.
Oui, ce serait merveilleux, oui, ce serait formidable, on ferait foisonner le monde, on déposerait les semis de nos questions sur la terre arable du monde, ce serait magnifique, mais ce n'est pas ça, on fait foisonner le monde en incertitude et en querelles. C'est-à-dire en querelles incertaines, en vérité. C'est ça le problème. Montaigne n'a rien contre la querelle, mais il a quelque chose contre les querelles verbeuses, si vous voulez, à la façon dont les franciscains et les dominicains peuvent s'engueuler sur la taille du linceul du Christ, par exemple. Tout ça n'a aucun intérêt et aucune importance et aucune incidence. Et ce sont ça, voilà les querelles vaines contre lesquelles Montaigne s'insurge. Ce qui est magique hein, dans ce texte, c'est que c'est un texte qui nous renseigne sur... Vous savez, c'est la phrase de Cioran, « Les déboires administratifs sont l'unique motif recevable de suicide ». Ce qui est une phrase formidable parce que, indépendamment du fait que c'est très drôle, et très juste, justement, c'est juste. Parce qu'il y a derrière l'angoisse administrative ce que l'administration terrifie, éprouve là une angoisse qu'il faut prendre au sérieux parce que c'est une angoisse métaphysique. C'est une angoisse métaphysique. Or, que nous apprend Montaigne ici quand on le lit d'un peu près ? Que l'angoisse qui vient du langage administratif, le sentiment que ce jargon est incompréhensible et que d'une certaine façon il nous est hostile, ou il nous éloigne de lui-même jusqu'à ces fausses formules de politesse, les sentiments distingués, vous savez, expression dont Camus dit au début de L'étranger qu'elle ne veut rien dire. Il y a derrière cela, en amont de cela, quelque chose de terrible qui est le rêve, là encore totalitaire, de l'individu d'embrasser la totalité des cas particuliers sous le régime de l'administration. D'enfermer dans un régime administratif la totalité des cas particuliers. C'est un rêve de toute puissance. Et en amont encore de ce rêve de toute puissance, il y a l'idée que la matière est divisible à l'infini. La matière étant divisible à l'infini, elle est plurielle. Mais cette pluralité, nous n'y accédons pas dans la matière, puisque chaque élément de la matière est divisible à l'infini. Un atome est lui-même divisible, contrairement à ce que son nom indique, puisque atomos, c'est l'indivisible. Un atome lui-même peut être divisé un milliard de fois. Et chaque milliardième d'atome peut être divisé un milliard de fois, et ainsi de suite. En droit, si j'ose dire, les choses sont divisibles à l'infini. En pratique, nous n'accédons jamais, en les divisant, à la réalité substantielle de ce qu'elles sont. On ne fait que les émietter quand on les divise. Et là, Montaigne fait valoir quelque chose, qui est que, à rebours de la complexification administrative, qui est en fait une ambition de simplification du réel, il y a la simplicité elle-même. Il y a la simplicité elle-même, celle qu'aucune division ne peut saisir. L'unité à laquelle aucune division ne peut prétendre, puisque quand on entre dans la division, On entre dans la différence, on entre dans la disparité. Et ce passage-là, Montaigne va très loin, il va jusqu'à dire que c'est la science qui crée la difficulté, où l'on trouve un écho du fait que c'est le jugement qui fait des erreurs alors que la sensation est toujours vraie. Dire c'est la science qui crée la difficulté, c'est dire que c'est le sabir qu'on dépose sur une réalité elle-même silencieuse qui produit les difficultés byzantines dans lesquelles nous nous enferrons ensuite. Nous sommes des pompiers pyromanes. Nous créons par l'administration les problèmes dont nous n'arrivons pas ensuite à nous dépêtrer.
Attendez, j'ai une question du coup, parce qu'on ne peut pas passer dessus comme si de rien n'était. Lorsqu'il dit la science qui crée la difficulté, est-ce qu'on s'approche d'un élange de l'ignorance qu'on retrouve un petit peu éparpillé parfois dans ce chapitre sur l'expérience ?
Alors, là encore, c'est une autre ambiguïté de ce chapitre. Il faut vraiment, si on pouvait convaincre tous nos auditeurs de lire ce chapitre. Sur la question de l'ignorance, là encore, c'est tellement ambigu, tellement cet homme qui s'exprime si simplement dit des choses en apparence si contradictoires et en réalité pas. Sur l'ignorance, il dit à un moment, c'est dans ce chapitre, vous savez, qu'il parle du molle chevet de l'ignorance, du molle oreiller de l'ignorance, du plaisir qu'il y a à s'appuyer sur l'oreiller de l'ignorance. Bref, il fait l'éloge de l'ignorance, du confort de l'ignorance, du bonheur de l'ignorance. Et dans le même temps, un peu plus loin, il dit, c'est par l'expérience que je combats l'ignorance. Alors, tenez, écoutez Montaigne. « Mon apprentissage n'a pas d'autre fruit que de me faire sentir combien il me reste à apprendre. » On est dans le paradoxe le plus classique premier de la philosophie. Plus on apprend qu'on ignore. Et puis, juste après, l'ignorance qu'il vante, qu'il célèbre ici, c'est un retour à l'ingénuité filtrée par l'expérience. On est passé par le filtre de l'expérience pour en revenir à une ingénuité renouvelée face au monde. C'est pas l'ingénuité du type qui arrive sur Terre et qui regarde le monde pour la première fois. C'est l'ingénuité acquise du type qui, arrivant sur Terre, a commencé par apprendre des choses et a découvert en apprenant qu'il ne savait rien, et donc a renoué au terme de cet apprentissage avec une candeur qu'il avait abjurée d'abord au profit de la connaissance. La grande erreur dans la vie pour Montaigne et la bêtise consiste à s'en tenir à l'apprentissage, justement. Consiste à s'en tenir à ce qu'on croit savoir. Donc, il fait l'éloge de cette forme d'ignorance qui nous rend le monde, à la façon, vous savez, dont on peut dire que l'eau filtrée est encore meilleure que l'évian. Vous voyez, vous avez l'eau du robinet, alors vous avez certains qui disent qu'il y a du plomb dans l'eau du robinet, il ne faut pas la boire. Et puis, il y a le filtre qui serait l'image de l'intelligence ici. Et puis, il y a l'eau filtrée. Et alors, les mêmes qui disent l'eau avec du plomb qui sort du robinet, il ne faut pas la boire, sont ceux qui disent « Ah, l'eau filtrée, c'est encore meilleur que l'eau minérale ». Eh bien voilà, ici on est dans l'eau filtrée, c'est-à-dire l'eau filtrée c'est l'ignorance nouvelle, c'est l'ignorance que l'intelligence, que l'apprentissage, que la connaissance nous a permis de conquérir. C'est de cette ignorance-là qu'il fait l'éloge. Donc il n'y a pas de contradiction quand plus loin Montaigne dit « c'est à partir de mon expérience que je dénonce l'ignorance humaine ». Un lecteur de surface pourrait dire ben, « comment peut-il faire l'éloge de l'ignorance puis ensuite dénoncer l'ignorance humaine ?» En réalité il n'y a pas de contradiction puisque l'ignorance en question telle qu'il l'a construit dans l'éloge qu'il en fait, qui est une ignorance socratique, cette ignorance-là est le meilleur remède à l'ignorance véritable, c'est-à-dire l'ignorance qui se prend pour un savoir, l'ignorance au carré du type qui est persuadé de savoir tout parce qu'il a tout appris.
Et cela rejoint la citation de Platon que fait Montaigne dans ce chapitre, lorsqu'il dit « De là vient cette subtile observation de Platon, à savoir que ni ceux qui savent n'ont à s'informer, puisqu'ils savent, ni ceux qui ne savent pas, puisque pour s'informer, il faut savoir de quoi l'on s'informe. »
Effectivement. Alors, la référence qu'il fait, c'est à quelle page, ça, d'ailleurs ?
Alors, c'est page 1296.
Je rappelle à nos auditeurs qu'on est dans l'édition André Lanly des Essais de Montaigne et que c'est la raison pour laquelle on leur donne les numéros des pages puisqu'ils auront de cette façon la liberté de suivre le texte lui-même. La référence que fait Montaigne à Platon, c'est la deuxième référence qu'il fait à Platon dans ce chapitre.
Et le seul au Ménon particulièrement.
Et voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, le seul dialogue auquel il se réfère, c'est le Ménon. Il faudra qu'on fasse une émission sur le Ménon, Paola, parce que ça s'impose. Le paradoxe du Ménon ici, alors il l'évoque à un autre moment, mais là, le paradoxe du Ménon est très simple à comprendre et en même temps redoutable. Comment peut-on apprendre ? Et en soi, c'est une contradiction. Apprendre est contradictoire, dit Socrate, en tout cas en apparence. Pourquoi ? Mais parce que c'est très simple. De deux choses l'une, soit tu sais, soit tu ignores. Si tu sais, tu sais, tu sais que tu sais. Si tu sais que tu sais, tu n'as pas besoin d'apprendre. Si tu ignores, bah tu ignores que tu ignores. Et si tu ignores que tu ignores, tu n'as pas besoin d'apprendre non plus. Quelle est cette idée d'apprendre ce qu'on ne connaît pas encore ? Comment pouvoir apprendre ce qu'on ignore ? C'est tout le paradoxe, où l'on retrouve un écho de la disposition socratique d'un savoir qui est savoir de sa propre ignorance. Il y a ceux qui ignorent, les animaux, il y a ceux qui savent, les dieux. Les animaux ignorent qu'ils ignorent, donc ne cherchent pas à savoir. Les dieux savent qu'ils savent, ils ne cherchent pas à savoir non plus. Entre les animaux et les dieux, il y a un homme, à face bovine et avec une âme de dieu. C'est Socrate, un homme, c'est-à-dire un individu qui sait qu'il ne sait rien. Et qui, de ce point de vue, crée, donne le jour à cette disposition proprement philosophique de l'individu qui consiste à, qui en apparence est paradoxal, apprendre ce qu'on ne connaît pas. Et c'est de cette façon qu'il y répond. Donc Montaigne se réfère à Socrate en faisant valoir le fait que Socrate permet de penser la nécessité d'apprendre, un, parce qu'on ignore, parce qu'on sait qu'on ignore, deux, non pas pour savoir davantage, mais pour ignorer encore davantage. Il faut ignorer encore davantage. Ça, c'est la grande différence entre la philosophie et le reste des disciplines. En philosophie, un progrès se reconnaît au fait que vous avez remplacé une conviction par un doute. Alors qu'en science, c'est exactement l'inverse. En philosophie, le progrès, c'est de substituer le doute à la certitude. C'est ça, le progrès. C'est ça, l'apprentissage. Et c'est de ce paradoxe-là que nous parlons, en fait, nous ne faisons que parler de cela. C'est ce paradoxe-là que Montaigne et Platon, entre autres, naturellement, ont en partage ici.
D'autres références au Ménon, enfin en tout cas qu'il y en avait une qui précède celle qu'on vient de citer et qui est donc le début en fait. Montaigne cite le début du Ménon lorsque Socrate demande à Ménon une définition de la vertu et que Ménon sécrète tout un essaim de vertus en disant il a la vertu de la femme, la vertu de l'homme, celle de l'esclave, etc.
Celle du tyran.
Et en fait, il est en quelque sorte montagnien lorsqu'il fait ça, puisqu'il est du côté de l'expérience, mais non. Il cherche à voir toutes les vertus possibles, tous les saints des vertus qu'on pourrait imaginer en se basant sur l'expérience, alors que Socrate cherche à unifier tout ça.
Ouais, c'est compliqué, hein, tout ça.
Oui.
C'est compliqué. Ça a l'air simple, ça se lit délicieusement. Et vous savez, Montaigne est vraiment un auteur aimable dans la mesure où il ménage toute forme de lecture. Vous pouvez le lire tranquillement, à la suite, comme ça, et trouver ça intelligent, subtil, constamment intelligent, fin, libre, joyeux, et vous y promener gaiement. Et puis, vous pouvez décider, pour les besoins d'une émission de radio, par exemple, sur une chaîne bénie, décider de vous arrêter sur un passage, essayer de le creuser un tout petit peu, et là, les difficultés commencent, les difficultés apparaissent.
On aurait pu faire une émission entière sur 10 lignes de Montaigne.
Mais sur 5 lignes de Montaigne, même sur une phrase de Montaigne, je vais vous dire. On aurait pu faire une émission entière sur une phrase qui se trouve à la première page de ce chapitre sur l'expérience, qui dit « La ressemblance ne fait pas autant un que la différence ne fait autre ». Et on va y venir, d'ailleurs, à cette phrase en passant par le Ménon. Parce que, regardez, cette deuxième citation du Ménon dans le chapitre de l'expérience, effectivement, part du début du dialogue. « Dis-moi, Ménon, qu'est-ce que c'est que la vertu ?»« Ah, dit Ménon, mais rien de plus facile que de te répondre. La vertu d'une femme, c'est ça. La vertu d'un homme, c'est ça. La vertu d'un enfant, c'est ça. La vertu d'un commandant, c'est ça. La vertu, etc. Il y a toute une infinité de vertus adaptées aux situations, etc. » Réponse sophistique de Ménon. Il y a autant de vertus que de cas particuliers. Bon. À quoi Socrate, pas avec une ironie délicieuse, il y a beaucoup de métaphores animales dans le Ménon, lui dit « j'ai de la chance, Ménon, je demandais une vertu et me voilà avec un essaim de vertus ». Plusieurs choses ici. D'abord, évidemment, Montaigne cite le Ménon pour se moquer de ceux qui compliquent et qui coupent les cheveux en quatre, c'est-à-dire Ménon. Bon, il coupe les cheveux en quatre, il va chercher, il voit 10 000 vertus, là où il n'y en a qu'une. Bon, et Socrate a beau jeu de démontrer à Ménon que si Ménon parle indifféremment de vertus pour la femme, pour l'homme, pour l'esclave même, pour l'enfant, pour le commandant, pour le soldat, pour ce qu'on voudra, si Ménon parle indifféremment de vertus, emploie indifféremment le même mot pour désigner des situations sociales ou familiale tout à fait différente, voire parfois antagoniste dans la Grèce de son époque, si Ménon cite une infinité de vertus, c'est que, implicitement, il se réfère à une définition unique de la vertu. Et donc, le propos de Ménon, Socrate est très fort, il se sert du propos de Ménon qui semble prendre le contre-pied de la question de Socrate qui était de lui demander ce qu'était la vertu. Socrate se sert de cet essaim de vertu que Ménon lui sert en retour pour lui montrer que s'il cite une infinité de vertus, c'est qu'elles ont tout un point commun. Et que par conséquent, il y a bien une idée de la vertu en amont de tout cela. Et on peut trouver ici l'écho de cette simplicité dont Montaigne semble nostalgique quand il fait la critique du sabir administratif. De cette simplicité dont Montaigne regrette la perte sous l'effet de nos artifices, sous l'effet de nos juridictions ou de notre juridisme fou, ou de cette hyper-législation qui recouvre ou qui voudrait recouvrir tous les cas particuliers et qui n'y arrive pas. Donc ça, c'est un premier point. Mais là où ça se complique encore, et c'est votre remarque, Paola, qui m'y fait penser, et vous avez infiniment raison, Ménon est beaucoup plus proche de Montaigne que Socrate. Pour une raison simple, c'est que il en va de la vertu comme de la beauté, par exemple, chez Platon. Dans l'Hippias majeur, autre dialogue de Platon, Socrate demande à Hippias ce qu'est la beauté. Et Hippias lui répond « Ah, mais la beauté, Socrate, c'est une belle vierge. » Une demoiselle, ça dépend des traductions. Quoi. Il y a des traducteurs plus ou moins audacieux. Bon. Et évidemment, les profs de terminale ont beau jeu de dire « Mais enfin, il est complètement crétin, cet Hippias, il n'a pas compris la question de Socrate. Bon. » Mais Hippias, il n'est pas si bête que ça. Puisqu'au fond, ce que dit Hippias, c'est il ne dit pas « La beauté, c'est une belle vierge. » Il dit « La beauté n'existe pas séparément du spectacle d'une belle vierge. » En d'autres termes, la beauté n'existe pas séparément de son apparition. La beauté n'est pas séparable de son apparition, c'est-à-dire de son témoignage sensible. Et en cela, Hippias n'est pas si bête. Parce qu'il renvoie, il dit deux choses du coup. Un, il n'y a pas de beauté séparément d'un individu beau, alors que tout le processus platonicien consiste à se débarrasser des interprètes provisoires de la beauté que sont les individus beaux pour aller vers l'idée de la beauté qu'ils ont tous en partage, parfois sans le savoir. Donc, il prend le contre-pied de cela en montrant qu'il n'y a pas de beauté séparément d'un individu beau. Et il prend deux fois le contre-pied de Platon en vérité parce qu'il dit aussi implicitement qu'il n'y a pas d'idée du beau. La beauté, c'est une évidence qui n'est corrélée à aucune vérité. C'est ce que dit Hippias, c'est ce que laisse entendre Hippias. Or, que dit Ménon ? La vertu est une évidence qui n'est corrélée à aucune définition stable de la vertu. Et d'ailleurs, le Ménon, qui est un dialogue aporétique, ne cesse de donner des définitions de la vertu sur lesquelles il revient ensuite. Tout le propos de Platon, on l'a vu déjà quand on a parlé de Platon, c'est de montrer que, au fond, on met la charrue avant les bœufs quand on se demande qui est juste et qui n'est pas juste, ou qui est beau et qui n'est pas beau, avant de se demander ce qu'est la justice ou ce qu'est la beauté. Sauf que tous les dialogues de Platon sont construits sur le même modèle, qui est qu'on part d'abord dans une discussion sur qui est juste et qui n'est pas juste, ou qui est beau et qui n'est pas beau, avant d'en venir à la nécessité de dire ce qu'est la justice ou ce qu'est la beauté. Et si les dialogues de Platon suivent ce cheminement-là, c'est parce qu'ils seraient bien en peine de dire ce qu'est la beauté ou ce qu'est la justice. Et ce que Platon ne pense pas, et que Montaigne déjà commence à entrevoir, c'est le fait que on peut être vertueux sans savoir ce qu'est la vertu. Et ça ne veut pas dire qu'on est vertueux par hasard. Bien sûr, il y a ceux qui sont vertueux par habitude, à la façon de ce type dans la République, vous savez, qui a mené une bonne vie, une vie vertueuse, par habitude, et qui du coup, quand il s'agit d'en choisir une autre, une nouvelle vie, son âme se plante complètement et élit la vie d'un tyran, parce que ça n'est pas la philosophie qui l'a conduit à la vertu, mais c'est seulement l'habitude. Donc, on peut être vertueux par habitude. Du point de vue de Platon, si on le lit de près, un, on découvre qu'il faut savoir ce qu'est la vertu pour être vertueux. Deux, on s'aperçoit qu'on ne sait jamais ce qu'est la vertu. Ou il faut savoir ce qu'est la beauté pour être, d'une certaine façon, beau, avoir l'âme belle, hein, non pas le corps, bon. Mais deux, nul ne sait ce qu'est la beauté. Et on serait bien en peine, au fond, de la définir et de la décrire. Et en cela, Ménon ressemble davantage à Montaigne. Parce que, et j'en viens à la première phrase que je vous citais tout à l'heure, la ressemblance ne fait pas autant un que la différence ne fait autre. Une phrase géniale sur laquelle s'arrête la première page de ce chapitre sur l'expérience. Que dit cette phrase, au fond ? Elle dit que, bon, la ressemblance n'est pas tant un gage d'unicité que la différence n'est un gage d'altérité. Si on creuse un peu, cette phrase dit « le même est plus faible que le différent ». Une faille dans la plénitude suffit à la dissoudre. comme dirait Guitry, être assez intelligent, c'est n'être pas assez intelligent, justement, parce qu'il y a une faille dans l'intelligence. Un détail suffit à détruire un ensemble. Et cette phrase-là montre ou dit que l'unicité, la vérité, la simplicité, elle est hors d'atteinte. Elle ne se donne à saisir par nous que sous la forme disparate du divers que nous avons et qui est offert à notre sensibilité, c'est-à-dire à notre expérience. Et donc, voyez, Socrate cite Ménon à la fois pour moquer celui qui, comme Ménon, coupe les cheveux en quatre, mais en même temps, il peut citer Ménon à l'appui d'une démarche qui est également la sienne, à savoir, il n'existe en ce monde que des différences. Et ces différences sont à penser comme telles. Comme tel, il faut penser la différence en tant que différence et non pas par rapport à une identité. Il faut penser l'autre en tant qu'autre et non pas par rapport au même dont il serait l'altérité. Il faut penser l'altérité comme telle. Il faut penser la différence comme telle. Pourquoi ? Parce qu'on est jeté dans le monde, on est jeté dans le devenir, que tout est passage, que rien n'est stable et que, au fond, les seules vérités auxquelles nous avons accès sont des vérités qui, comme dit Camus, doivent pourrir. Et en cela, Montaigne est plus proche de Ménon que de Socrate. Vous voyez ? À quel point, d'abord, citer d'autres philosophes que lui-même dans son texte n'expose pas Montaigne au reproche, là encore, stupide, journalistique, qui consiste à dire « oui, il ne pense pas par lui-même, puisqu'il cite un autre ». Montaigne n'est jamais si près de lui-même que quand il cite un autre philosophe. Et d'ailleurs, lui-même, il dit à un moment, il a une phrase très belle que j'avais relevée. « Oui, j'accepterai toujours en matière de fait la vérité de la bouche d'un autre plutôt que de la mienne. » Bon, d'où les citations Sénèque, Platon, Plutarque, Cicéron, etc., etc., qui truffent, dont les essais sont truffés, et je ne compte pas les citations qu'il a mises en enlevant les guillemets, en oubliant les guillemets. Penser par soi-même, c'est penser par autrui. Et ça, c'est une des grandes leçons de Montaigne, et on ne le dira jamais assez. Et quand on pense par autrui, eh ben, que voulez-vous ? Il faut se prêter à l'ambiguïté d'un texte, et c'est le cas du Ménon ici.
Et pourtant, c'est dans ce chapitre sur l'expérience qu'à un moment, il dit... qu'il vaut mieux se fier à qu'on n'a pas besoin en fait de lire Aristote et tout parce qu'on peut trouver ça dans sa propre expérience. Et je cite, il dit « Celui qui se remémore l'excès de sa colère passée et jusqu'où cette fièvre l'emporta, voit la laideur de cette passion mieux que dans Aristote et il en conçoit une plus juste haine. »
Numéro 1, il se moque des snobs qui prétendent avec Aristote à avoir une sorte de viatique pour l'existence, un truc pour régler tous les problèmes. C'est une ambition qui n'est pas moins totalitaire que l'inflation législative qu'il stigmatise. C'est-à-dire le sentiment qu'on peut armer de la philosophie, régler tous les problèmes. Super. Illusion des illusions. Évidemment, vanité des vanités, illusion des illusions. Donc il commence par se moquer de cela. Mais il ne dit pas que cela. Il dit qu'il n'y a pas de matière plus noble que d'autres. Et c'est ça qui est en jeu là-dedans. On a, quand il dit cela, on retrouve un écho du chapitre 8 du livre 3 des Essais, toujours, dans lequel Montaigne disait, entre autres, qu'il était sur la manière du dire, plus que sur la matière du dire. Aristote, c'est noble, c'est beau, Aristote. Dans une disserte, ça en jette, hein, ça fait peps, comme disait ma prof de français. Aristote, ça claque. Oui, peut-être, mais une citation de troisième main d'Aristote extraite d'un manuel de terminale ne remplacera jamais la description, il faut le dire, aux lycéens qui passent le bac, ou même aux candidats à la grègue, un peu moins, mais disons aux lycéens ou aux cagneux. Il faut leur dire, une citation d'Aristote n'arrive pas au petit doigt de pied de la description détaillée et du commentaire d'une expérience vécue, par exemple. Ce qui compte, ça n'est pas la noblesse apparente de la chose citée. Ce qui compte, c'est l'utilisation qu'on en fait. Ce qui permet à Montaigne, un peu plus loin, mais vraiment quelques lignes après le passage que vous avez eu la bonne idée de lire, ce qui permet à Montaigne de dire « La vie de César n'est pas plus instructive pour nous que la nôtre. Et que ce soit la vie d'un empereur ou celle d'un homme du peuple, c'est toujours une vie que tous les accidents humains concernent parce qu'elle y est sujette. » Et ça, c'est merveilleux. Parce que c'est une façon de dire à la fois... Et encore une fois, chez cet homme qui cite tant les philosophes, c'est une façon de dire à la fois qu'il faut lire les philosophes, mais que la première chose que les philosophes nous apprennent, et c'est notamment le cas de Platon dans le Parménide, où Parménide explique au jeune Socrate qu'il y a une idée du poil, P-O-I-L, et que par conséquent, on peut faire une philosophie du poil. Il n'y a pas d'objet plus indigne que d'autres en philosophie, d'objet d'étude plus indigne que d'autres. L'indignité en philosophie n'est pas dans l'objet qu'elle se donne, mais dans son traitement. Ce qui fait qu'il y a deux écueils en philosophie que la lecture de Montaigne nous permet peut-être d'éviter. Écueil numéro un, c'est l'écueil abstrait d'une science prétendument absolue et dont la valeur absolue, ou dont le caractère absolu plus que la valeur absolue, nous éloigne du réel qu'elle prétend résoudre dans ses catégories immuables. Premier défaut, première pensée, si vous voulez, qu'il faut éloigner de soi parce qu'elle est elle-même éloignée de la vie. Deuxième défaut, le poujadisme de celui qui dit philosophons sur tout et à partir de tout, on peut faire une philosophie du petit déjeuner ou une philosophie du timbre-poste. Non pas parce qu'il fait une philosophie du timbre-poste, mais parce que le discours qui va avec est en général un discours adapté à la ténuité de l'objet lui-même. Si vous voulez, le problème de la pop philosophie, ce ne sont pas les objets du quotidien qu'elle se donne. Ce qui en fait un exercice parfois poujadiste, c'est la méthode elle-même banale, ordinaire, sans intérêt, qu'on applique à ces mêmes objets. Si on philosophe sérieusement, rigoureusement, à partir d'un timbre-poste, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que quand on pense le timbre-poste, en général, on le pense avec le cerveau d'un timbre-poste. C'est ça la difficulté. Il faut juste, si vous voulez, rendre aux objets leur dignité perdue, et cette dignité dépend du taux de candeur, d'ingénuité, c'est-à-dire de philosophie, qui se dépose sur ces objets, et à ce compte-là, un timbre-poste vaut autant que Platon.
Alors, on est obligé de s'arrêter là, mais oui. On n'a pas épuisé un centième du chapitre, absolument pas. On n'a même pas parlé, pour vous dire, de la tautologie ultra connue de
quand je danse, je dors. C'est comme faire une émission sur Hamlet sans parler de To be or not to be. Mais...
ce qu'on avait presque fait quand on avait fait une émission sur Hamlet.
C'est vrai.
Du coup, je ne sais pas, peut-être qu'on renvoie nos auditeurs à une émission à venir sur...
Il faudra qu'on revienne sur ce chapitre de toute façon, parce que effectivement, une heure n'en épuise pas le millième. Il faudra revenir sur ce chapitre, parce que vous savez, dans ce chapitre, il y a aussi la description que Montaigne propose de sa maladie.
La gravelle,
dont il fait grand cas. Il y a un éloge de la maladie chez Montaigne. La description qu'il fait de sa maladie et cette tautologie sublime, quand je danse, je danse, quand je dors, la critique de l'écriture, puisqu'il dit nous donnons de la dignité à nos bêtises quand nous les imprimons. Enfin, il y a mille délices encore qui nous attendent. On y reviendra ensemble. Merci Paola, merci à tous, François Connac, Alice Ramon et aujourd'hui Delphine Baudet à la technique. Fidèle à son habitude, le Quai Savoir continue d'avoir les yeux plus gros que le ventre et se retrouve une fois de plus au terme de l'émission face à la nécessité de remettre le couvert sur le même sujet. Nous allons néanmoins laisser passer un peu de temps, mais vous ne perdez rien pour attendre. On vous retrouve bientôt, dans quelques dimanches à peine, pour la suite, sinon la fin, du commentaire, donc, du dernier chapitre des Essais. Mais ce n'est pas de cela que nous vous parlerons la semaine prochaine, puisque, comme la conversation que nous venons d'avoir nous y a conduit, et vive le hasard, c'est du Ménon. Le sublime dialogue de Platon que nous parlerons dimanche prochain, comment apprendre ce qu'on ne connaît pas, qu'est-ce que la vertu, qu'est-ce que la réminiscence, ce sont les trois questions auxquelles nous tâcherons dimanche prochain, dans la mesure de nos moyens, de ne pas répondre. Dans l'intervalle, vous pouvez nous retrouver sur Internet à la page du Gai Savoir où vous attendent bibliographie, réponses et téléchargements. Et si la philosophie vous manque, retrouvez les nouveaux chemins de la connaissance qui parleront d'épidémie cette semaine, ce qui me fait regretter d'autant plus de n'avoir pas eu le temps d'examiner ce que Montaigne raconte de sa propre maladie. Mais c'est comme ça. 17h sur France Culture. Dans un instant, l'atelier du pouvoir, Thomas Vider, Vincent Martini, à vous Cognac Jay.